L'éclaircie, c'est le mot qui convient à ce qu'on peut appeler une rencontre avec le temps. Et le temps, tout à coup, s'éclaire si on a une mémoire intense, notamment une mémoire enfantine qui reste présente. Et c'est la rencontre aussi avec la bonne aventure qui peut vous arriver, comme n'importe où, n'importe quand. Tout à coup, ça s'éclaircit. Ça veut dire qu'on est dans l'obscurcissement, ça veut dire qu'on est dans une sorte d'époque très dévastatrice, très ténébreuse, très misérable, très réactive, pour ne pas dire tout à fait réactionnaire, très régressive. Et donc, c'est un appel de lumière, tout simplement.
C'est la rémanence de ces sentiments d'enfance qui nous sauve de la déliquescence ambiante.
Oui, c'est-à-dire exactement ce qu'il y a de poétique dans l'enfance. Je peux vous réciter ça avec Baudelaire, par exemple. Hein. C'est le vers paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Vous voyez qu'en quatre vers, vous avez au moins quatre éclaircies très étranges. Hein. Regardez ça simplement. Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets. Ça suffit. Voilà des éclaircies multiples. Vous avez ça si vous avez un fort sentiment poétique de la nature ou des corps humains que vous rencontrez comme des chances.
Vous parlez là de l'amour entre frères et sœurs. Alors, est-ce d'abord une histoire vraie, familiale pour vous? Et de toute façon, à la limite, peu importe, qu'est-ce que pour vous cet amour entre frères et sœurs?
Eh bien, je venais de vous parler de l'enfance. C'est évidemment quelque chose de très très précis. C'est-à-dire qu'on a été enfant avec des êtres humains, notamment, bon, le personnage dans le roman, c'est une sœur un peu plus âgée, et qui partage donc un nombre de sensations très très fortes par rapport à ce vers paradis des amours enfantines. Donc il y a quelque chose d'un peu troublant dans cette relation. Et comme elle disparaît, le narrateur va retrouver sa sœur chez une autre femme qui ne lui ressemble pas, mais qui lui ressemble par l'intensité de sa présence. Autrement dit, quand on a une rencontre réelle avec qui que ce soit, on partage à un moment ou à un autre des enfances communes. Sinon, sinon il n'y a pas d'amour. C'est gratuit. L'enfance est gratuite. Si vous la retrouvez avec quelqu'un qui a le même sentiment de gratuité, c'est quelque chose qui échappe totalement au calcul.
Toute sœur rêve de faire de son frère son homme à elle, et du coup, ce frère-là peut devenir un homme, en fait.
Écoutez, je crois que c'est une question difficile parce que je crois que un homme, on ne sait pas très bien ce que c'est, une femme non plus, des enfants, on le sait, si on est attentif, si on sait comment on a été un enfant. Alors, vous savez, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, à travers une course d'obstacles considérable. Eh bien, moi, je peux vous dire la même chose pour un homme. On ne naît pas homme, on le devient, et le plus souvent à ses dépens.
Vous avez payé cher pour devenir un homme?
Certainement un homme, pas comme les autres, voilà, pas comme ceux qu'on appelle les hommes. Pour ça, il faut refuser sans cesse, être réfractaire, comme dans l'enfance, être réfractaire à tous les embrigadements, au fait d'être ensemble, je sais pas, mais ça se passe à l'école, ça se passe dans les familles, ça se passe à l'armée, ça se passe n'importe quand, lorsqu'on veut que vous soyez là, dans une sorte de place précise, en tant qu'homme. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que d'être en tant qu'homme. Et si j'étais une femme, je ne saurais pas ce que c'est non plus que d'être en tant que femme. Voilà. Ce sont des formules creuses qui sont répétées sans arrêt, en dépit du fait vérifiable qu'il n'y a que des singularités. Autrement dit, c'est tel homme, éventuellement, ou telle femme, éventuellement. Manet, dont je parle beaucoup dans ce livre, avait l'habitude de dire, on lui demandait quelles étaient les femmes de sa vie. Et il répondait, les femmes de mes tableaux. Je pourrais dire la même chose pour en ce qui me concerne. Les femmes de ma vie sont les femmes de mes livres.
Et réciproquement, c'est-à-dire que souvent on retrouve dans vos livres l'évocation des femmes de votre vie, effectivement. Cette sœur-là fut-elle la vôtre, vraiment?
Mais certainement, sans quoi ça n'aurait pas de vérité sensible. Donc la mienne vue par moi, pas avec un reportage de télé-réalité dans une famille, vous comprenez ? C'est-à-dire, là, ce serait faux. La mienne, en tant qu'elle, au lieu d'être une image sociale, c'est d'abord une présence particulière qui donne une intensité, encore une fois, singulière, autant ce que vous avez dans la peinture. C'est-à-dire que vous regardez Manet, vous regardez Berthe Morisot, Mary Laurent, la splendide Victorine Meurent que vous avez dans Le Déjeuner sur l'herbe. Quand Manet, à 30 ans, a produit ce tableau, tout le monde s'est assemblé pour cracher dessus. Ça a fait un scandale. Ce que les bourgeois ou les petits bourgeois de l'époque aimaient, c'était Cabanel, qui est un peintre que vous pouvez voir dans les restaurants près des Champs-Élysées, c'est-à-dire des nymphes emperlousées sur des rochers. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, que si vous ouvrez
des magazines. Paris Hilton.
Si vous ouvrez des magazines, vous voyez des produits de beauté, vous voyez de la chirurgie esthétique à tous les. Vous voyez l'époque technique où nous sommes, où par exemple les implants mammaires vous sautent au visage qu'il faut explanter, etc. C'est-à-dire on vit une époque tragique sur les corps humains. Et cette époque s'annonce par l'extraordinaire mauvais goût de la peinture du 19e siècle, à laquelle Manet a résisté avec son génie. Ensuite, vous avez par exemple Picasso, lui aussi, on m'a dit, alors qu'est-ce que c'est que ces demoiselles d'Avignon, c'est affreux, etc. Il a imposé quand même sa façon de voir un nombre considérable de femmes qui ont été les femmes de ses tableaux, c'est-à-dire de sa vie. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est de l'art, tout ça. C'est l'art de vivre, c'est l'art de percevoir, et c'est ça qui fait éclaircie.
Moi, j'ai inventé une fausse citation de Picasso. Je dis toujours que plus il y a de noir, mieux on y voit.
C'est pas faux, parce que savoir voir le noir, c'est une façon d'éclaircir les choses. Évidemment, il ne faut pas qu'il n'y ait que du noir. Par exemple, si vous prenez un très mauvais peintre comme Soulages aujourd'hui, qui est porté au pinacle, vous n'avez rien à voir, soi-disant, ce noir vous ferait voir quelque chose. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui signifie le noir. Donc c'est pour ça que les artistes contemporains sont un peu à côté de la plaque. Il faut être capable de faire un portrait, ou de faire un nu, de faire ceci, ça, ils ne savent pas dessiner. Donc pour entrer dans le noir, il faut avoir le talent du pinceau et de la représentation de ce noir. Et ce noir est là dans le regard, pas ailleurs.